La plus haute juridiction des Nations Unies, la Cour internationale de justice, ouvre cette semaine les audiences sur les conséquences juridiques de la présence israélienne en Judée-Samarie. On en a discuté avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU, raison pour laquelle nous l'avons contacté, et que Lucie Gilson a pu s'entretenir avec lui. Je vous propose d'écouter leur échange.
Yehuda Lankri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Aujourd'hui s'ouvre le premier jour des audiences de la Cour internationale de justice qui ont pour objectif d'examiner, je cite, les conséquences juridiques de l'occupation israélienne en Judée-Samarie depuis 57 ans. C'est une affaire qui a été introduite avant les attaques tragiques du 7 octobre. Quelle est votre réaction ?
Oui, effectivement, c'est une requête qui avait été introduite par l'autorité palestinienne depuis bien longtemps. En tout cas, bien avant les atrocités du Hamas. Vous le savez, la Cour internationale de justice a deux fonctions. Elle est l'organe juridique des Nations Unies, mais elle est aussi son organe consultatif. Donc, dans cette démarche, il y a une requête consultative, pas juridique, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne n'attend pas un arrêt de la Cour internationale de justice sur l'occupation ayant effet immédiat ou à moyen terme ou long terme. Elle attend un avis consultatif. Donc, ça sera une recommandation qui n'est pas contraignante pour Israël, mais qui peut effectivement consolider les positions palestiniennes sur le plan juridique international.
Alors, c'est ce que j'allais dire, Israël est maintenant mis en examen dans plusieurs affaires. On ne peut pas s'empêcher d'évoquer les récentes requêtes introduites par l'Afrique du Sud qui accusent Israël de génocide. Quel pourrait être le potentiel impact de ces différentes procédures juridiques sur les opérations militaires en cours ?
Aucun impact. Encore une fois, c'est une recommandation que délivrera la Cour internationale de justice, peut-être pas dans l'immédiat, il va falloir un moment. Elle n'aura aucune répercussion pratique concrète sur les opérations en cours à Gaza et même en Judée-Samarie.
Alors, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ces accusations font partie de la tentative palestinienne de dicter le règlement politique du conflit sans négociation. Mais nous continuons, il a déclaré que Israël continuerait à lutter contre. Ce serait donc également une manœuvre politique de la part de l'autorité palestinienne ?
Écoutez, les Palestiniens, ça fait déjà quelques années depuis qu'ils ont fait le constat qu'il y a une stagnation dans le processus de paix, une stagnation qui est due aux deux parties, il faut reconnaître les choses comme elles sont, à la fois du côté d'Israël, notamment avec ce gouvernement dont on connaît les tendances et les vocations idéologiques, mais aussi du côté palestinien, et que les deux partenaires n'ont plus réussi à parler de paix sérieusement, à faire avancer la paix. Donc, le choix sur lequel les Palestiniens se sont portés, c'est l'arène internationale. Soit aux Nations Unies, en essayant de progresser avec leur aspiration à se faire reconnaître comme État membre dans la complétude, pas simplement observateur, et dans les cours de justice internationale pour essayer de lutter contre Israël de cette façon. C'est une espèce de guerre d'usure juridique, mais il faut tenir bon, et lorsque viendra le temps de la négociation de paix sérieuse, approfondie, avec des élites palestiniennes capables de s'adresser à Israël en termes de paix, en logique de paix, à ce moment-là, c'est à Israël de montrer qu'il a du répondant et qu'il pourrait éventuellement faire avancer la paix avec les Palestiniens.
Alors, Israël a choisi de ne pas participer aux audiences de cette Cour internationale de justice, mais a envoyé des observations écrites. C'est une stratégie classique dans de telles circonstances ?
Dans ce cas de figure, oui. Une note écrite par où Israël représente sa position est la chose la plus souhaitable. Je pense qu'il est, il n'est pas indispensable de donner du poids spécifique à la requête palestinienne par la présence d'Israël dans cette cour.
Mais comment cette décision pourrait influencer le résultat final de la procédure, alors?
Les juges en décideront, évidemment, je ne suis pas à leur place. Le droit international est là. Les divergences, eux, sur le plan du droit international sont là. Là où les Palestiniens disent que Israël n'a aucun droit, ni historique, ni concret sur ce territoire, Israël prétend que, d'abord, nous avons des droits historiques. Et deuxième point, qui est non moins important, c'est que ces territoires n'ont pas appartenu à l'autorité palestinienne ou aux Palestiniens en tant que tels. Ils étaient sous mandat britannique, légués aux Jordaniens. Et donc, la partie palestinienne, ici, se place dans un créneau qui n'est pas un créneau naturel sur le plan de leur appartenance et de leur revendication de ce territoire. C'est le point de vue israélien.
Est-ce que Israël pourrait mettre en avant des arguments sécuritaires?
Bien sûr, les arguments sécuritaires sont fondamentaux. Au regard de la Cour, ce qui compte le plus, c'est le droit international par essence, c'est-à-dire le statut sur le plan du droit international de ces territoires.
Et donc, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu du rôle de la communauté internationale dans cette affaire. C'est un moment particulièrement délicat pour Israël, puisque l'État hébreu doit gérer la levée de boucliers quasi unanime de la communauté internationale face à une prochaine offensive militaire à Rafah. Est-ce que vous pensez que cela peut jouer sur la décision de la Cour de justice ?
La Cour de justice a fait observer à Israël, évidemment, lors de l'audience où Israël était présent face aux Africains du Sud, qu'il y a lieu de respecter un certain nombre de points, ce qu'elle a appelé des mesures conservatoires. Et donc on connaît ces mesures qui pèsent notamment sur le plan de l'assistance humanitaire, sur le plan de la protection des civils. Israël pourra, à mon sens, mener son opération à Rafah, mais dans les conditions et des restrictions qui lui sont imposées par la Cour et qu'Israël s'impose lui-même. Israël n'a jamais eu vocation à détruire la Palestine, comme le prétendent le Hamas et ses alliés, ou les Palestiniens. Dans ce cas de figure, ce sont les Sud-Africains qui avancent cette argumentation. Non, Israël se défendra après avoir été attaqué dans l'atrocité par le Hamas et se défendra dans le cadre de la légitimité internationale et du droit international.
Alors, vous l'avez dit, il y a la participation d'un certain nombre de pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi l'Afrique du Sud et l'Égypte. Comment pensez-vous que la dynamique géopolitique mondiale pourrait influencer les délibérations et les positions adoptées par ces pays?
En principe, la Cour internationale de justice doit observer strictement le cas qui lui est proposé dans cette requête palestinienne, quel que soit le contexte international. Si l'on ne veut pas politiser la Cour à outrance, ces dérives peuvent effectivement avoir lieu. Donc, il faut que la Cour se concentre sur le plan de l'essence juridique et non pas les considérations géopolitiques internationales. Bon, on comprend bien que l'Égypte soit dans une forme de crispation et ne souhaite pas recueillir des centaines de milliers de Palestiniens potentiellement déplacés ou se déplaçant eux-mêmes vers la frontière égyptienne. Et les États-Unis avance l'argument très sérieux de la solution du problème des otages israéliens et des perspectives de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Voilà, la Chine est un acteur un peu plus lointain, un peu plus passif, qui ne contribue pas à la logique de paix, mais les acteurs essentiels qui peuvent infléchir la décision d'Israël, c'est effectivement les États-Unis d'Amérique et la voisine égyptienne avec laquelle nous avons un traité de paix en bonne et due forme et qu'il s'agit de préserver de toute atteinte.
Et enfin, ma dernière question, comment cette procédure pourrait-il influencer la perception internationale d'Israël et quelles répercussions on peut anticiper sur les relations diplomatiques?
Oui, la perception est importante, c'est certain. Israël a besoin d'être, sinon positivement perçu, du moins correctement perçu. Et tout acharnement juridique contre Israël, même s'il est, comme dans le cas de figure de l'Afrique du Sud, sans fondement, fallacieux, procédure tout à fait douteuse, tout ça, évidemment, pèse sur l'image d'Israël. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas entourés que d'amis dans le monde, et notamment dans la famille des Nations, des 193 États membres des Nations Unies. La majorité est écrasante et pour la cause palestinienne. Et ce qui est malheureux dans ce cas de figure, c'est que très peu d'États membres établissent une distinction nette entre le Hamas et son agression sauvage. J'irais jusqu'à dire que c'est un foudroyant fragment de choix. Et la cause palestinienne. Alors, il se trouve que dans les eaux purificatrices, ce qu'on appelle en termes religieux les eaux lustrales de la cause palestinienne, on noie ces atrocités du Hamas et on lave le Hamas. C'est comme une opération de blanchiment de la plus basse cuisine que je puisse imaginer.
Eh bien, Yehuda Lankri, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci beaucoup à vous.